L'abbé Faure, double assassinat de la rue de Besance. Les trois cellules des condamnés à mort sont inoccupées au moment où M. Pella, inspecteur général des prisons, vient faire sa visite officielle et sur son désir, j'ai avec lui une conversation des plus intéressantes sur le régime auquel sont soumis les détenus. Le 16 juillet, monsieur le directeur part pour un mois de congé. Il n'était pas encore de retour quand un condamné à mort faisait son entrée. C'était Bousquet. Voici son histoire. Le 17 avril dernier, dans l'après-midi, un homme de petite taille, à l'accent méridional très prononcé, se présentait au 14 de la rue de Belzonce. Il demandait à parler à mademoiselle Juliette Dreudroir, bonne d'enfant, chez M. Pagny, avocat à la cour d'appel. Mademoiselle Dreudroir était absente. Il promettait alors de revenir un peu plus tard dans la soirée. À 6 heures, il était de retour. La bonne se présenta, tenant dans ses bras le jeune enfant de sa maîtresse. Le visiteur s'écrie alors en lui montrant, mettant la main sur l'épaule, « Juliette, veux-tu, oui ou non, revenir à la maison ?» Tout ce que vous ferez et direz sera inutile. Allez-vous-en. Je ne reviendrai jamais. Tu ne veux pas ? Bien, tant pis pour toi. Et l'assassin fait feu de 3 coups de revolver à bout portant. L'infortuné tombe et laisse tomber l'enfant qu'elle portait. Le meurtrier s'acharne sur elle, lui décharge un 4e coup qui lui fracasse le crâne et l'achève. Elle avait à peine 20 ans. Au bruit des détonations, Madame Pagny accourt. L'assassin aperçoit le mari, se précipite sur lui, et lui tire dans la poitrine les 2 coups restants dans son arme. Le malheureux avocat, mortellement atteint, tombe à son tour sur le tapis, et le meurtrier s'étend dans un fauteuil. « Je regrette pour vous, madame, » dit-il à la pauvre femme, ce qui vient de se passer, mais c'est tant pis pour votre mari. Quelques instants après, le meurtrier était arrêté. Charles Bousquet est né à Montreuil, près de Coulommes, dans le Gers, en 1852. D'abord clerc d'huissier à Marseille, il acheta plus tard une charge d'huissier à Saumur, et en 1884, il épousa dans cette ville mademoiselle Jeanne Duruel, maître de natif de Chinon, à peine âgé de 16 ans. En 1888, Madame Bousquet, mère pour la seconde fois, réclamait les soins de sa sœur, plus jeune qu'elle de 2 ans. Et des relations ne tardèrent pas à s'établir entre Bousquet et sa belle-sœur, qui devint bientôt enceinte de ses œuvres ce qui provoqua dans la ville de Saumur un scandale tel que Bousquet dut vendre son étude et se réfugier à Paris. Là, il fit l'acquisition d'un lavoir rue Rantôme. Mais son inexpérience et son inconduite le forcèrent bientôt à vendre cet établissement avec une perte considérable. Il loua alors une maison à Noisy-le-Sec, où, après de fallacieuses promesses, sa femme va le rejoindre. Néanmoins, il n'avait pas renoncé à ses coupables rapports avec sa belle-sœur, de laquelle il eut 3 enfants, conjointement avec les 3 que sa femme légitime lui a donnés. Cette existence criminelle et incestueuse fatiguait la jeune Juliette de Loire, qui prit enfin la fuite et se présenta chez les époux Pagny, espérant bien échapper à jamais aux obsessions de son beau-frère. Des 3 enfants, il ne lui en restait qu'un. Bousquet finit par découvrir le lieu de la retraite de sa belle-sœur et après plusieurs tentatives infructueuses, il résolut le double crime qui l'a amené à sa comparution devant le jury. Les efforts de Maître Forny pour sauver la tête de son client ont été inutiles. Les jurés ont écarté la préméditation en ce qui concerne l'assassinat de M. Pagny. Mais quant au meurtre de Juliette Renard, ils ont refusé les circonstances atténuantes et le samedi 9 août, Charles Bousquet était condamné à la peine de mort. Le soir même, après avoir signé son pourvoi en cassation, il était transféré avec les formalités d'usage à la Grande Roquette. Le premier soin du condamné était de réclamer la visite de l'aumônier. Le dimanche 10 août, je me rends dans la cellule de Bousquet et je me trouve en face d'un homme de petite taille, trapu, aux cheveux noirs, au crâne un peu dénudé. Les yeux sont vifs, la physionomie intelligente, mobile, rusé, l'accent gascon très prononcé, la parole facile, les expressions choisies et justes. L'accueil qui m'est fait est plein de déférence et de respect. En quelques mots, je fais comprendre au condamné quelle sera la nature de nos relations. J'essaie de lui donner quelque espoir de commutation de peine. Mais je vois bien qu'il ne se fait aucune illusion sur le sort qu'il a mérité. Il se rend parfaitement compte de son double crime. Il envisage avec effroi qu'il laisse derrière lui 2 veuves, sa femme et Madame Pagny, 7 orphelins. Ses 3 enfants légitimes, celui de sa belle-sœur et les 3 enfants de Madame Pagny. Il songe à ses vieux parents, à son frère, à tous ceux en un mot qu'il avouait à l'opprobre et à une inconsolable désolation. Alors les larmes amères et abondantes s'échappent de ses yeux. Les sanglots l'étouffent et j'ai toutes les peines du monde à le consoler et à l'encourager un peu. Il me demande à remplir prochainement ses devoirs religieux. Il accepte avec joie d'assister à la messe. Je lui donne un livre à cet effet. Contrairement à tous les autres condamnés que j'ai visités jusqu'à ce jour, Bousquet ne fait point usage de tabac, ne boit jamais de vin. La ration réglementaire de chaque repas est mise à la disposition du garçon de bain qui nettoie la cellule et qui accepte volontiers cette aubaine. Dès les premiers jours de son arrivée à la Roquette, Bousquet a habitué ses gardiens à une pratique peu en usage en pareil lieu. Matin et soir, à son réveil comme à son coucher, ils se mettent à genoux et, sans affectation comme sans respect humain, il fait longuement sa prière. Il passe ses journées à lire, à écrire et un peu aussi à jouer aux cartes avec ses surveillants. Il attend impatiemment les visites que je lui fais 3 fois par semaine et me raconte volontiers les particularités de sa vie. Il est né à Montreuil, près Condon, dans le Gers, en 1852. Il est donc âgé de 38 ans. Il a habité successivement Montreuil, Condon, Marseille, Bordeaux, Saumur et Paris. Il était fixé à Noisy-le-Sec au moment de son arrestation. Sa jeune femme, mais âgée de 20 ans, et ses 3 enfants habitent encore cette localité. Charles Bousquet envisage avec calme le sort qui lui est réservé, quel qu'il soit. La mort ne semble pas l'effrayer, et toutes les fois que je veux faire luire à ses yeux quelques rayons d'espérance, je me heurte à une irréductibilité pleine de résignation. Et un jour, il me demande « Monsieur l'aumônier, comme le fira-t-on le rejet de mon double pourvoi en cassation et en grâce ?»« Oh, mon ami, ce ne sera qu'au dernier moment, lorsqu'on nous annoncera ou votre commutation de peine ou votre exécution. » Oh, je serais bien heureux de connaître mon sort au moins 2 jours à l'avance, afin de pouvoir prendre des mesures vis-à-vis de ma femme et de mes enfants. L'humanité se refuse à cette aggravation de peine. Vous laissez 2 jours avec la perspective d'une mort certaine. Y pensez-vous? Oh, monsieur l'aumônier, rassurez-vous, je saurais bien supporter cette situation. Au moins, j'aurai le temps de songer aux intérêts matériels des miens, tout en me préparant convenablement à la mort. Mais alors, Bousquet, pourquoi ne pas agir dès maintenant, comme s'il ne vous restait aucun espoir? Vous avez plusieurs semaines assurées devant vous. Prenez vos dispositions. Confiez-les à monsieur le directeur, sous enveloppe fermée. Et en cas d'une commutation de peine, la lettre vous sera remise. Et si, au contraire, la justice doit avoir son cours, doit subir son cours, ses volontés seront religieusement respectées. Bousquet a compris mon raisonnement et il a agi en conséquence. La Cour de cassation, dans son audience du 15 septembre, a rejeté le pourvoi de Bousquet. Il ne reste plus d'espoir que dans la clémence du chef de l'État. Par mesure d'humanité, on le laisse dans l'ignorance du rejet de son pouvoir. La tâche du défenseur est de plaider sa cause auprès de la commission des grâces. M. Forni aura-t-il du succès ? Dès son entrée à la grande requête, Bousquet a témoigné d'un vif désir de se préparer à recevoir la Sainte Communion. Pendant 6 semaines, je l'ai entretenu dans l'espérance d'accomplir cet acte religieux. J'ai reçu plusieurs fois ses confidences. Et enfin, le dimanche 21 septembre, après la grand-messe, je lui ai porté le Saint-Sacrement dans sa cellule. Après une courte allocution, il a récité le Confiteor et a reçu la Sainte Hostie dans les sentiments les plus éclatants et édifiants. Je ne dissimule pas aux condamnés que nous entrons dans la semaine décisive. Il est préparé à tout événement avec le calme d'un chrétien par de repentir et de résignation. Dès le lundi, les amateurs d'émotions violentes se réunissent la nuit sur la place de la Roquette dans l'espoir d'un spectacle sanglant. Les journaux annoncent comme imminente et certaine l'exécution de Bousquet. On assure qu'elle est fixée au samedi 27. Tour à tour annoncée et démentie, cette nouvelle n'en est pas moins acceptée comme certaine par le public. Et moi-même, je me sens étreint par une crainte sérieuse. Le vendredi, je fais une visite à mon intéressant prisonnier, toujours calme et tranquille. Je ne sais quel frisson me parcourt au moment où je lui serre la main en quittant sa cellule. Oh, serait-ce pour la dernière fois ? Monsieur le directeur ne peut me donner aucun renseignement précis. Et tout aussi ému que moi, il se rend au parquet pour avoir une solution. Un grand personnage de la cour de Russie désire assister à l'exécution, si elle a lieu. On veut lui donner une nouvelle certaine. Enfin, 9h du soir, on apporte à M. Bouquesnes la notification de l'acte de clémence de la présidente de la République, qui, comme eut la peine de mort prononcée contre Bousquet en celle des travaux forcés à perpétuité. Immédiatement, monsieur le directeur se rend dans la cellule du condamné. Bousquet est en train de jouer aux cartes avec ses gardiens. À l'entrée du directeur, il se lève et dans une attitude respectueuse, il attend qu'on lui fasse connaître son sort. Bousquet, votre peine est commuée. À ces mots, le malheureux a failli se trouver mal. Sa face s'est congestionnée. Il essaie de parler, les paroles sont étouffées dans sa gorge. Il éclate en sanglots. Il a perdu connaissance. Et quand il revient à lui, il saisit la main de M. Bousquet, pleurant. Encore et balbutiant. Oh, merci! Le même jour, la jeune femme de Bousquet était venue le voir. Elle avait appris la rumeur publique et toute hésitante, haletante, me faisait des questions auxquelles il m'était impossible de répondre. Je me fis un devoir de lui donner du courage et de l'espoir. Elle se remit un peu d'argent pour le condamner. Le dimanche, je montais à la salle des éparés. Je voulais féliciter mon pauvre Bousquet de la grâce inespérée qu'il venait d'obtenir. À mon entrée, il me sauta au cou devant ses camarades et me donne au milieu d'une explosion de larmes une accolade pleine de reconnaissance et de joie. Je lui montre une lettre que je viens de recevoir de son frère. Il la lit avec émotion, me fait en pleurant ses derniers adieux, en me remerciant de toutes les attentions que j'ai crues pour lui pendant sa captivité. Au revoir.